Radio Okapi. Journal présenté par Jocelyne Moussaou-Pondé.
Attaque à répétition des miliciens de la CODECO contre des populations civiles à Djougou en Ituri, la CINCO s'est dit préoccupée et demande aux autorités compétentes de s'investir davantage pour y rétablir la paix et poursuivre les auteurs de ces actes. L'Ouganda a sommé de verser 325 millions de dollars à la RDC pour réparation et dommages pour l'invasion de l'Est de son territoire lors de la guerre de 98 à 2003. La décision est de la Cour internationale de justice, la plus haute juridiction de l'ONU, siégeant à La Haye aux Pays-Bas. Nous recevons ce matin Narcisse Mouteba Kachalé, maire de Béni. Il revient sur l'explosion d'une bombe artisanale le week-end dernier au marché Mayangossé et les dispositifs sécuritaires mis en place pour protéger la population contre ces types d'attaques. Bonjour à tous. La conférence épiscopale nationale du Congo s'est dit très affectée et préoccupée par la succession d'attaques perpétrées par la milice de la CODECO et qui ont fait une centaine de morts en l'espace d'une semaine dans le territoire de Djougou en Ituri. Pour la CINCO, cette violence est inadmissible. Elle demande par conséquent aux autorités politico-administratives et militaires de s'investir davantage pour rétablir la paix dans cette partie du territoire et poursuivre les auteurs de ces actes. C'est dans un communiqué signé hier mercredi par son président Marcel Outembi que la CINCO s'exprime. Pelekipe Lamondo nous fait le résumé de ces communiqués.
Dans ce communiqué, la CINCO liste une série d'attaques qui a endeuillé la population de Djougou à qui elle présente ses condoléances. Le 31 janvier 2022, 6 personnes sont tuées, 3 grièvement blessées et des cases incendiées dans une attaque de la milice CODECO dans la localité Alagui, chefferie de Mambisa, territoire de Djougou. Le 1er février, le site des déplacés Plaine Savo, localité de Boulé, territoire de Djougou, est attaqué par la CODECO. 63 personnes sont massacrées, dont 24 femmes et 17 enfants. On dénombre aussi 41 personnes blessées, dont 18 graves, parmi lesquelles des enfants, des maisons incendiées et des biens emportés. Le 3 février, une personne est tuée toujours par la CODECO à Moulabo. Et le 5 février, dans les lacs Albert, 60 personnes meurent dans une embarcation de fortune qui a chaviré. Ces personnes fuyaient l'attaque des miliciens de la CODECO qui avaient décapité 9 personnes et incendié plusieurs dizaines d'habitations. Pour la CINCO, c'est inadmissible. Consternée par cette situation, la CINCO demande aux autorités d'agir davantage pour stopper la violence, rétablir la paix et poursuivre les auteurs de ces actes. Aux miliciens de la CODECO, elle les exhorte d'arrêter de tuer leurs frères, car celui qui est son frère est dans les ténèbres, affirme-t-elle en paraphrasant les Écritures.
Pendant ce temps, en Ituri, le site des déplacés de Ro dans le territoire de Djougou s'est vide petit à petit de ses habitants. C'est depuis l'attaque du 2 février dernier qui a coûté la vie à une soixantaine de personnes massacrées par la milice CODECO dans les sites de Plaine Savo. Dans la région, d'après le président du site de Ro, des familles embarquent tous les jours dans des camions à destination de Bounia. D'autres prennent la direction du lac Albert pour gagner l'Ouganda voisin dans des barques redoutant d'autres attaques de ces miliciens et malgré la présence dans la zone des militaires FARDC et des casques bleus de la MONUSCO. Le point avec Jean-Claude Loki.
C'est depuis environ une semaine que ces déplacés quittent le camp. Femmes, enfants, jeunes et vieux, tous bagages à la main ou sur la tête, empruntent une voie très risquée à pied pour atteindre la rive du lac Albert. Il faut presque une journée entière pour parcourir 60 km, explique Samuel Kwajanga, le président de ce site. Ces ménages embarquent par la suite dans des barques à destination de l'Ouganda où ils préfèrent se mettre à l'abri. D'autres personnes arrivent à Bounia dans des camions qui font le trafic sur l'axe Bounia-Ro. Selon des sources sur place, ces personnes disent intercepter des communications des assaillants à travers des radio Motorola qui promettent d'attaquer ce site à l'instar de celui de Plaine Savo où plus de 100 personnes ont péri, ce qui alimente la peur au sein de la population qui décide de quitter la zone pour ne pas subir le même sort. Signalons cependant que ce site de Ro est sécurisé par des militaires des FARDC ainsi que des casques bleus de la MONUSCO. Au dernier recensement, il hébergeait 14 372 ménages, soit 65 765 personnes. Bounia, Jean-Claude Loki, Radio Okapi.
Le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu appelle la population, particulièrement les jeunes de la région de Butembo-Beni, au calme et à faire confiance à l'État congolais face aux problèmes sécuritaires auxquels fait face cette région. S'est confié en mardi à Radio Kapi, l'élu de Nirangongo affirme que les députés nationaux suivent de près la question de l'état de siège et que les jeunes doivent éviter les manifestations qui souvent finissent par des débordements. Le député national Singoma Mwanza le dit à Grace Samzati.
Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est d'abord de faire confiance à leurs élus et que s'ils ont suivi un peu dans la session du mois de septembre, les députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri ont eu en tout cas plusieurs reprises à ne pas siéger dans les plénières parce que justement nous avons voulu qu'on puisse faire une évaluation vraiment sérieuse de l'état de siège. On a été reçu par le chef de l'État. On a eu l'occasion de lui présenter toute la problématique que nous estimons sont des problèmes de sécurité qui doivent être traités. J'ai toujours dit c'est tout à fait normal que dans une situation telle que nous la vivons où on voit des gens égorgés, des tueries, et on ne voit pas de solution poindre directement à l'horizon, on ne peut que s'énerver, en tout cas surtout pour les jeunes. Maintenant, ce qu'on peut leur dire, c'est que malheureusement, ils doivent être conscients qu'aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul État, c'est l'État congolais, nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Congo, et qu'une seule province, c'est le Nord Kivu. Oui, nous sommes tous énervés avec toutes ces tueries, mais nous avons d'un autre côté des ennemis qui, je pense, quelque part, seraient très contents de voir un peu notre société aller dans des conflits sans fin. Donc, soyons quand même unis. De l'autre côté, on est bien déterminés, comme je vous le dis, à faire toute la pression nécessaire pour que soit on recadre l'état de siège ou soit qu'on aille vers un autre système.
Au Kasaï, 9455 cas de violence et celles basées sur le genre ont été recensées en 2021. Statistiques présentées hier à Chikapa devant la presse par la ministre provinciale du genre. Denise Mouluka attribue cette situation au conflit communautaire, la pauvreté, les coutumes avilissantes et les violences armées. Selon elle, le gouvernement provincial a décidé de prendre certaines mesures, dont la sensibilisation de la population, la vulgarisation de certains textes qui condamnent ses pratiques et la justice. Écoutez Denise Mouluka dans cet extrait choisi par François Kadima.
Tranche d'âge qu'on a dit recensé chez nous, c'est de 12 à 17 ans. C'est l'âge vraiment le plus fréquent. Il n'y a même pas une semaine, il y a eu aussi des filles de 13 ans violées ici chez nous, dans la ville de Chikapa. C'est regrettable. Les dispositions, c'est la sensibilisation, la vulgarisation et la justice aussi, les ateliers internes. Pour sensibiliser cette femme-là, ces messieurs, toute la population de la province du Kasaï, que ce soit dans nos provinces, territoires, secteurs, localités, même dans nos langues, dans nos dialectes, nos ONG, ils sont pas seulement pour tourner ici dans la ville de Chikapa. Ils doivent aller aussi dans les fins fonds.
À Beni, l'école primaire Murungani, qui compte un nombre important d'enfants déplacés de guerre venus des agglomérations de l'est et du sud du territoire de Beni, éprouve d'énormes difficultés de fonctionnement. Situé dans le quartier Mambango, dans la commune de Bungulu, cet établissement ne réunit pas les conditions qui puissent permettre un bon apprentissage des enfants. Son responsable lance un appel au secours aux autorités et autres personnes de bonne volonté. Marc Marofimbo nous fait le point.
L'école primaire officielle de Murungani compte 12 salles de classe construites en plage et dans un état lamentable. L'école compte 751 élèves, parmi lesquels 301 enfants déplacés, venus de la commune rurale de Bulongo et de la localité de Kabasha. Les conditions d'études sont difficiles pour ces enfants, comme l'explique ici Damon Mapendo Sali, directeur de l'école.
Les problèmes résident au niveau de la capacité d'accueil. Donc, dans chaque classe, il y a pléthore d'effectifs suite aux enfants déplacés de guerre. Donc, une classe peut avoir 70 écoliers, 80 écoliers. La difficulté en est que nous n'avons pas les bâtiments scolaires et les enfants étudient dans de mauvaises conditions. Il n'y a pas de mobilier. Nous demandons aux autorités de l'État, les humanitaires, de nous venir en aide pour la difficulté que nous sommes en train de rencontrer ici à l'Epe Murungani.
Bien que les parents se sont engagés à réhabiliter les bâtiments qui représentent un danger permanent pour ces enfants, Diamond Mapendo souligne que toute personne de bonne volonté qui souhaite appuyer l'école est toujours la bienvenue. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Je l'ai dit dans les titres, la Cour internationale de justice de la Haye somme l'Ouganda de verser 325 millions de dollars à la RDC au titre des dommages subis après l'invasion de son territoire. 225 millions de dollars concernent les pertes en vies humaines, 40 millions pour les dommages aux biens et 60 millions pour les dommages aux ressources naturelles. Ce verdict est tombé hier après-midi à la Haye, siège de la Cour internationale de justice. Le rappel de fait avec vous, Suzanne Zobo.
En 2005, la Cour internationale de justice de la Haye, la plus haute juridiction des Nations Unies, avait décidé que Kampala devait payer des réparations pour avoir envahi la RDC pendant la Deuxième Guerre du Congo de 1998 à 2003. Ce conflit avait impliqué jusqu'à 9 pays africains, parmi lesquels l'Ouganda et le Rwanda, qui soutenaient des forces rebelles dans l'est du pays, riches en minerais. La République démocratique du Congo avait accusé l'Ouganda d'actes de barbarie lors d'audience devant la Cour internationale de justice en avril 2021, évoquant une occupation de 5 ans marquée par de très graves atteintes aux droits de l'homme. La RDC réclamait plus de 11 milliards de dollars, un montant que l'Ouganda avait qualifié d'exorbitant.
Notez que la somme allouée devra être intégralement acquittée par versement annuel de 65 millions de dollars américains dû le 1er septembre de chaque année entre 2022 et 2026. La Cour décide que, en cas de retard, des intérêts moratoires au taux annuel de 6% courront sur toute somme due et non acquittée à compter du jour suivant, celui où celle-ci aurait dû être réglée, indique l'arrêt de la Cour internationale de justice. Justice encore, au procès du double assassinat des défenseurs de droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidel Bazana, un nouveau renseignant est venu consolider les affirmations faites par d'autres parties qui l'ont précédé dans leur déposition à l'audience publique d'hier mercredi devant la haute cour militaire de Kinshasa à la prison militaire de Ndolo. Le policier Eric Kibungé alias Saddam a chargé le colonel Daniel Mukalai, Christian Goy et le général Zeloua Djadidia, ainsi que le major Paul Mouilamboué dans le double crime du 1er juin 2010 à l'inspection générale de la police. Reportage Jeff Ngoy.
Ancien garde du corps du colonel Daniel Mukalai, Kibungé Saddam est celui qui aurait maîtrisé les deux défenseurs des droits de l'homme dans l'opération de leur mise à mort. Dans une confrontation musclée avec le colonel Daniel Mukalai, il affirme connaître beaucoup de son chef qu'il charge en même temps que le général Zeloua Djadidia. Ces dépositions corroborent avec celles de Jacques Mugabo, Doudou Ilunga et consorts. Jusqu'à quand continuerez-vous à nier alors que vous avez déjà été condamné à 15 ans de prison? Assumez-vous. Attaque le ministère public face aux négations du colonel qui ne reconnaît pas son implication dans ce crime. Nous avons tué et nos chefs étaient dans le coup, dépose Jacques Mugabo contre Mouilambo et Mukalai. Maître William Wenga, conseil de Paul Mouilambo, clame l'innocence de son client.
Avec les révélations d'Eric, il a dit ce qu'il a dit. Bon, nous avons déjà préparé le terrain. Bientôt, la vérité finira par triompher.
Parti civil, maître Mbikaï s'est dit réconforté par ses dépositions.
Je veux vous dire que la responsabilité de Mukalai n'est plus à démontrer parce qu'il y a un arrêt de la haute cour coulé en force des choses jugées qui les condamne comme assassin du double assassinat.
Mercredi prochain, la cour amorce les conclusions des débats avec les plaidoiries.
Au Nord Kivu, les députés nationaux Josué Mufula, arrêté et jugé en procédure de flagrance à l'auditorat militaire du Nord Kivu le mardi, a été relaxé hier mercredi avant l'arrêt de la cour militaire attendue ce vendredi. Ce parlementaire est poursuivi pour provocation et incitation à des manquements envers l'autorité publique et outrage à l'armée. De son côté, le député provincial élu de Beni, Jean-Pierre Ngaangondi, a été transféré hier mercredi à la prison centrale de Munzenze à Goma. Arrêté le dimanche 6 février à Goma par l'ANR, puis transféré à l'auditorat militaire de garnison de Goma, ce député est accusé d'être derrière les manifestations contre l'état de siège organisées récemment dans la ville et le territoire de Beni. La coordination nationale de la Convention pour le respect des droits humains, CRADH, exige sa libération sans condition, soulignant que cette arrestation relève du non-respect des procédures judiciaires. Et puis, sachez que le système des Nations Unies en RDC s'est mis dans un processus d'élaboration d'un plan conjoint d'appui au programme national stratégique de développement du gouvernement congolais pour les deux prochaines années 2022-2023. Selon le compte-rendu de l'actualité de l'ONU en République démocratique du Congo, publié hier mercredi, un atelier de formulation de ce plan est organisé à cet effet à Kinshasa du 8 au 11 février 2022. Cet atelier réunit les experts de toutes les agences de l'ONU présentes en RDC, ceux du gouvernement, de la société civile et du secteur privé. Le plan de travail conjoint des Nations Unies est un instrument grâce auquel le cadre de coopération du système onusien pour le développement durable est opérationnalisé, précise la source. Il s'agit d'un outil de réflexion, de planification, de budgétisation, de mobilisation des ressources, de mise en œuvre, des suivis et d'apprentissage pour toutes les agences du système des Nations Unies en RDC.
Actualité internationale.
Cinq gardes forestiers et un soldat ont été tués et 10 personnes blessées dans une embuscade mardi dans un parc naturel transfrontalier géré par le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, a annoncé hier mercredi une organisation de protection de la nature dans un communiqué. Le bilan humain du cyclone Batirai qui a quitté Madagascar lundi est passé à 80 morts selon un décompte actualisé annoncé hier mercredi par les autorités. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes qui compile des éléments remontés depuis les régions les plus touchées, notamment sur la côte orientale de l'île de l'océan Indien, a annoncé que le bilan était passé de 30 la veille au soir à 80 dont 60 pour le district d'Ikongo, situé dans cette zone.
L'invité.
L'invité de ce journal, c'est le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé. Il est maire de Béni. Avec lui, nous revenons sur l'explosion d'une bombe artisanale le week-end dernier au marché Mayangosé et les dispositifs sécuritaires mis en place pour protéger la population contre ces types d'attaques. Le commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé s'entretient avec André Kitenge.
Commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de la ville de Béni. Pas plus tard que le week-end dernier, il y a eu pour la énième fois une explosion à la bombe artisanale non loin du marché central. Quelle lecture faites-vous de cette situation en cette période ?
Vous savez très bien avec moi qu'il y a des opérations qui se déroulent en profondeur, c'est-à-dire en brousse là-bas. Nos forces armées et nos alliés sont en train de mener des opérations là-bas et ces opérations vont très bon train. Et cela prouve que l'ennemi est en débandade. Voilà, l'ennemi a changé des méthodes et tactiques. Il commence maintenant à s'infiltrer dans la ville pour poser des bombes artisanales.
La semaine dernière, l'ambassade des États-Unis a lancé une alerte par rapport à des probables attaques terroristes dans la ville de Béni. Avez-vous pris des mesures qui s'imposent afin de protéger la population civile?
Oui, lorsque nous avons reçu les messages d'alerte, nous avons directement convoqué une réunion de sécurité et nous avons pris un certain nombre de mesures que nous avons partagées avec les bourgmestres. Les bourgmestres, à leur tour, ils ont partagé avec les chefs de quartier. Voilà, nous avons pris des mesures.
Pensez-vous que l'ennemi est déjà dans la ville?
C'est... En fait, il est là. Vous savez, je l'ai toujours dit, l'ennemi nous voit et nous ne le voyons pas. Donc, comme je l'ai toujours dit, c'est une guerre asymétrique.
Et aujourd'hui, que demandez-vous à la population? Parce que parfois, la population a du mal à comprendre ces différentes attaques. La population a peur.
Vous savez, depuis la première explosion, donc celui du 25 décembre, j'avais lancé une opération que nous disons en Swahili Chunguza Jirani, c'est-à-dire nous travaillons directement avec la population. Et je demande à la même population de continuer dans cette opération-là, de voir qui est à côté de nous, qui vit à côté de nous, et qu'on puisse identifier, s'identifier. Tout le monde doit connaître qui est à côté de lui pour alerter les autorités que nous sommes, afin que nous puissions traquer et traduire en justice tous les assaillants.
Est-ce que travaillez-vous de commun accord avec le service antimine de la MONUSCO UNMAS?
Oui, d'ailleurs, nous préconisons une formation. Nous avions déjà commencé avec eux et à la dernière semaine du mois de janvier, nous avons passé ensemble avec, nous avons travaillé ensemble avec eux dans une formation d'information. Alors, nous allons continuer avec eux pour que presque toute la population soit informée concernant tout ce qui se passe dans la ville.
Monsieur le maire de la ville, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
C'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Pélékipé Lamondo et mis en onde par Polydor Basunga. Merci de l'avoir suivi.